Alors, je n'ai pas parlé de l'entrée du film parce que je suis rentrée directement au mouvement dans le personnage, mais une des caractéristiques de Rémi Chaillet, il le dit pas comme ça, mais moi je le formule ainsi, si vous voulez, c'est l'anti-Miyazaki. Du coup, c'était très intéressant qu'il soit fasciné par Miyazaki. Parce que Miyazaki, il y a autant de travail de mouvement que Rémi Chaillet, mais on est dans beaucoup de détails. C'est-à-dire, si vous voyez les univers de Miyazaki, par exemple, que ça soit Princesse Mononoké, quand ils sont dans la forge ou quand on est dans la montagne, on est sur plein de petits objets. Il y a une forme de multiplication d'objets. Chez Rémi Chaillet, c'est pas pour rien qu'on dirait c'est un peu l'animation à la française. C'est pas du tout le même coup. De la même manière qu'il va croquer un visage, pas avec extrêmement de détails, mais avec des choses qui sont vives, en me disant voilà, c'est ses gros sourcils et son nez qui vont faire le personnage un peu têtu. De la même manière, il va faire des paysages qui n'ont pas exactement énormément de détails. Il y a pas, on va pas croiser 40 animaux, même si quand on va les croiser, je vous montrerai les extraits, c'est très joli, ces idées-là, du plus gros au plus petit. Hein, c'est un peu l'effet qu'on dirait microcosmos quand on va à l'intérieur des herbes, hautes de la plaine, parce qu'on est dans une géographie particulière hein, qui est la plaine avec des énormes montagnes qu'il faut traverser, des énormes défilés. Vous voyez que dans les paysages, il y a un travail d'aplat. L'aplat, ça veut dire que chez le plan que je vous ai montré, qui est très beau en contre-plongée, c'est des plans qui permettent de voir qu'on est dans des simplifications, c'est lui-même qui le dit, Rémi Chaillet, des simplifications de traits. Il utilise comment on dit, un logiciel d'animation qui permet en fait de passer de dessin à l'arrêt et de créer fictivement le mouvement. C'est-à-dire que des fois, vous pouvez avoir l'impression que c'est une forme de saccade et c'est fait comme tel. C'est-à-dire qu'il pense que passer par des images fortes de mouvement, c'est pour que nous, on retienne des mouvements qui sont plus graphiques, comme par exemple tenir sa ceinture avec un jean pour une femme. Et donc il va passer dans des poses, il va passer par des poses, alors qu'il y a une fluidité et une économie de production chez Miyazaki qui est complètement différente. Pour le coup, son cinéma, il est plus stylisé, il est plus à la Takahata, donc on est dans des traits plus faciles a priori à reproduire, mais aussi un travail de décor très particulier. Il va travailler sur des aplats plutôt que la multiplication des détails et sur des couleurs qui sont des couleurs, quand on y pense, quand on demande au jeune public d'y réfléchir, complètement folles. Donc, la même manière qu'on peut avoir des eaux violettes, vous avez, alors ça ne veut pas dire qu'on a des très beaux levers et couchers de soleil qui vont faire, mais lui, il va s'amuser à mettre des couleurs de plus en plus improbables dans ses décors. Donc, il y a l'idée de décors qui ne sont pas réalistes, qui sont plutôt des jeux de couleurs. Il le dit d'autant plus qu'il y a une inspiration graphique particulière qui est celle des nabis. Donc j'ai appris, je ne savais pas que c'est un mot arabe et hébreu qui veut dire inspiré. Et Rémi Chaillet, donc le cite en 2021, je vous ai donné quelques exemples pour vous montrer comment c'est cette envie de tricher avec les couleurs de la nature qui lui permet un peu de toutes les audaces de visuel. En fait, finalement, hein, vous savez, c'est l'éternelle question surréaliste ou des poètes du 19e siècle, et pourquoi le ciel serait pas rouge? Si on a envie qu'il soit rouge. Donc je le cite, lors des recherches pour Tout en haut du monde, j'ai essayé de retirer le calque de traits d'un dessin que je faisais, je me suis rendu compte que c'était intéressant. Le fait de structurer un dessin par l'ombre et la lumière, ça intéressait finalement plus que mes dessins aux traits. C'est un espèce de hasard et d'intuition, mais également le regard des autres qui m'ont poussé là-dedans. J'ai donc repris toutes mes illustrations pour le film en les adaptant à cette esthétique et j'ai trouvé ça convaincant. Donc là, c'est l'idée de le dire avec ses mots à lui, qui sont des mots graphistes de l'histoire du cinéma compliqué, l'idée de structure, de lumière et d'ombre. Mais je trouve ça intéressant d'en parler avec le jeune public dans cette idée de couleur improbable ou d'aplat. Je vous donne d'autres exemples des nabis. La chambre rouge de Félix Vallotton. Vous voyez que là aussi, les visages n'ont pas tous les détails. C'est des espèces de masses, comme là, c'est un rond. Il n'y a pas tous les volumes, parce que ce qui intéresse, c'est ces couleurs. Et ça peut aller très très loin dans les jeux, là vous avez une peinture de 1896 entre la tapisserie et les robes, ou alors de Paul Sérusier, Breton dans la Lande. Je ne sais pas si vous avez déjà été en Bretagne, mais si vous arrivez à trouver du orange ou du bleu comme ça, ben vous m'appelez parce que j'aimerais bien le voir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des très beaux verts et bleus, notamment sur le granit, mais ça veut dire qu'on peut se faire vraiment plaisir et qu'il va jouer avec cette inspiration graphique-là. Cette inspiration graphique, elle vient aussi du côté d'illustration dans les années 50. Il cite, voilà, ça m'a amené vers des affiches publicitaires ferroviaires, comme quoi, vous voyez, on n'en sort pas de la tactique ferroviaire. Là, c'était plutôt l'esthétique ferroviaire de ces grandes affiches. C'était privé, les lignes de chemin de fer étaient privées, elles faisaient beaucoup de publicité en insistant sur ce qu'on pouvait voir en les empruntant. Les montagnes, les rocheuses, le Grand Canyon. Donc, cette idée de découvrir son propre pays, c'était à la mode de ces grandes affiches aux aplats colorés, sérigraphiques très saturés, qui n'utilisaient que quelques couleurs. Donc voilà, vous voyez que les montagnes, elles sont violettes. Elles ont du violet, des traits orange, et qu'il va jouer avec ça. On n'est pas en reste dans l'imaginaire colonial français. Vous voyez que Alger, la ville blanche, devient cette espèce de bloc de blanc, et que l'Algérien devient, vous voyez, c'est une robe, une cape, l'Algérienne à ses pieds. Voilà, donc on est dans une simplification de traits. Comme vous avez à côté des chemins de fer dont il parle. Et moi, je voulais vous dire que voilà, ça existe dans les années 40, 30, 40, 50, de la même manière en France, avec un imaginaire national, mais moi, j'ai pris colonial, pour montrer qu'on a la même idée de donner à faire rêver avec des couleurs. Là, par exemple, la ville blanche. Donc, c'est cet amour des grands espaces. Chacun prendra le dessin qu'il veut. Moi, j'ai essayé de prendre plusieurs types de grands espaces, c'est-à-dire à la fois les grandes plaines que vous avez là, avec ce vert pastel, les montagnes, hein, parce qu'il va falloir les traverser. Vous avez vu ces types de bleu clair ou de violet. Là, c'est dans la mine, quand elle va le chercher, où il y a évidemment autant de couleurs. Et là, par exemple, cet effet de nuage avec un espèce de jaune calari, pour le coup, est aussi très impressionnant. Alors évidemment, il faut savoir s'arrêter, mais là, je voulais vous montrer toute la caravane qu'on en a en bleu dans le violet et les montagnes blanches. Voilà, pour qu'on soit dans des décors différents, mais avec toujours des jeux de couleurs très impressionnants, jusqu'au blanc. Donc il y a vraiment un travail sur le décor qui est très particulier, jusqu'au blanc de l'orage, qui est un moment évidemment singulier, parce que finalement, la mort, c'est la blancheur. Et c'est la mort qui peut foudroyer, mais c'est aussi la mort qui va détruire le dessin. Si on est au blanc, il n'y a plus rien à dessiner. Alors, de temps en temps, il fait des animaux. C'est pas son... Je vous ai dit, comme il est dans un graphisme plus général avec des aplats, il est moins dans la précision et le détail. Mais il y a un effet microcosmos, petits animaux. Moi, j'appelle ça l'effet de la nuit du chasseur. Vous avez vu le film de 1955 de Charlton, où tout d'un coup, on a des animaux qui arrivent, qui sont les animaux de la plaine du Far West avec le bousier. Qui prend son temps pour travailler. Et voilà, le cinéma peut changer aussi d'échelle très, très rapidement. Le cinéma, c'est aussi la question du suspense et de la surprise. Le suspense, le mot qui a beaucoup été utilisé autour du cinéma d'Alfred Hitchcock. Et comme tout à l'heure, on avait le principe du gag, c'est-à-dire on vous montre à la caméra quelque chose pour que le spectateur essaye de prévoir ce qui va se passer et réagisse à l'action. On a la même chose, hein, c'est cette idée que la leçon du cinéma muet n'a pas été oubliée dans ce film où il y a peu de dialogue et où l'action est importante. Et le rapport au suspense et à la surprise, c'est pas le même. Alors pour le faire comprendre aux enfants, on peut leur dire, voilà, il y a des moments d'attaque d'animaux différentes. Là, c'est le puma et c'est ce qu'on appelle le suspense parce que nous, on voit le puma avant. Donc le suspense, c'est comment elle va réagir à ça. La surprise, vous vous rappelez, c'est la petite sœur, non, c'est pas la petite sœur, c'est une autre jeune fille du convoi, son ami, qui est confronté à un serpent. Et là, on n'est pas préparé. Donc, c'est une surprise. Donc, le rapport à l'aventure, l'action, comme une surprise ou un suspense. Là encore, comme le mécano de la générale, sauf que le mécano de la générale, comme le mécano de la générale qui va transformer ça avec des vraies cascades pour le personnage, on est au plus près des actes aventureux de réalisme du personnage. Alors, les poses et la place dans le convoi, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que finalement, sa place dans le convoi, c'est un enjeu, et c'est aussi un enjeu dans le plan. C'est-à-dire que quand les plans sont très larges, est-ce qu'elle est derrière? Est-ce qu'elle est avec les jeunes filles? Dans quel ensemble elle est à l'intérieur du convoi? Là, c'est au moment où, enfin, le chef du convoi va lui serrer la main à la fin du film, et voir le convoi de loin ou pas, le faire avancer, comme on le voit à la dernière image. Ce sont des poses, parce que je dis que c'est un cinéaste qui travaille sur la pose et sur la place du personnage. Alors l'héroïne au centre du récit, ben, j'ai commencé par là, à vous dire cet exemple du cheval renversé et de ce que le personnage entend, qui fait qu'on n'est plus dans l'héroïsme du rapport que à l'action, qu'il y a aussi Marta Jane,